Chapitre 4. L'autre et l'ailleurs. Les civilisations non occidentales. Dans ce chapitre, à la découverte de la Chine et du Japon, l'Orient des califes et des sultans, l'Afrique dans tous ses états, l'Amérique des Aztèques et des Incas, aborigènes d'Australie, papous de Nouvelle-Guinée et Inuits du Nunavut. Longtemps centrée sur le monde occidental, l'histoire s'attache de plus en plus à déchiffrer les autres formes de civilisation. Les mystères de la Chine et du Japon prennent un parfum d'opium, l'éclat d'un sabre. Les califes ont les yeux grands ouverts mille et une nuits, et quand disparaissent les derniers pharaons noirs, l'Afrique inaugure cité-état et vaste royaume. À Tenochtitlan, Mexico, le sang ruisselle des pyramides. Dans la cordillère des Andes, l'Inca, roi, dieu, contrôle d'une main de fer un immense empire. La Chine. À tout seigneur, tout honneur, les Chinois considèrent leur pays comme l'empire du milieu, le centre du monde. Au centre de l'empire est placée la cité violette, la cité interdite, et au centre de cette dernière, le temple du ciel, où l'empereur accomplit les rites reliant le monde des dieux, le ciel, au monde des hommes, la terre. Comme dans la représentation chinoise de l'univers, la terre est plate. L'empire du milieu y trouve sa place au centre de l'espace plan, lieu idéal pour se relier au ciel également plat. C'est donc en se croyant le centre du monde que les empereurs de Chine, gardiens de l'ordre de l'univers, vont se succéder. Accompagnons-les dans leur longue marche vers l'actuelle République populaire de Chine. Les dynasties mythiques. L'empereur Dieu peut se flatter de descendre d'illustres ancêtres. Avant les dynasties officielles, les dieux eux-mêmes prennent la forme d'empereurs célestes pour régner sur la Chine. Les trois Augustes, les cinq empereurs. Avec Yu le Grand, fondateur de la dynastie Xia au XXIe siècle avant Jésus-Christ, commencent les temps historiques. Les trois Augustes. Les trois Augustes apportent aux hommes les inventions qui sont à l'origine du développement de la société. Fuxi, masculin, tient une équerre, le symbole féminin, le yin. Il invente l'écriture et la divination. Nugua, féminine, épouse du précédent, tient un compas, symbole masculin, le yang. Elle est à l'origine du mariage. Shenong, masculin, est le dieu de l'agriculture et de l'usage médicinal des plantes. Il donne aux hommes la médecine et la pharmacie. Les cinq empereurs. Ce ne sont plus vraiment des dieux, mais des empereurs mythiques divinisés. Il s'agit de Wang Di, l'empereur jaune, dont la couleur est celle de la terre et le nom celui du ciel, et qui les relie l'une à l'autre. Après avoir vaincu le dragon ailé, magicien maléfique qui dévastait la terre, il enseigne aux hommes tous les arts et toutes les sciences. Xuanxi, qui rétablit l'ordre du monde en séparant le ciel de la terre. Sa femme, Ku, donne naissance à 10 soleils qui brûlent en grande partie la terre. Yao, qui fait abattre à l'arc 9 soleils et donne au dernier une marche régulière du lever au coucher et qui fonde le calendrier, la succession ordonnée des saisons, et à ce titre, il est le modèle impérial du bon administrateur. Shun, désigné par Yao comme son successeur en raison de son exceptionnelle piété filiale, car il a su pardonner à son père Brimadze Ku et même une tentative d'assassinat. Yu le Grand, qui est le dernier héros, le dernier empereur semi-mythique, puisqu'il fonde la dynastie Xia, qui dure du XXIe siècle au XVIe siècle avant Jésus-Christ. On lui attribue aussi la fin du déluge par la création de fossés et de canaux.
Un peu de technique. Les écoles philosophiques chinoises. C'est pendant l'époque des printemps et des automnes que se développent les grands courants philosophiques de la pensée chinoise. Les connaître est essentiel pour être recruté parmi les fonctionnaires. Le confucianisme est la doctrine philosophique et éthique de Kunfu Tse, dont le nom latinisé devient Confucius, 551-479. Dans le système philosophique organisé par ses disciples, l'homme doit s'en tenir aux conditions sociales qui ont présidé à sa naissance. En accomplissant les devoirs sur lesquels repose cette doctrine, l'homme prend toute sa signification. Le taoïsme est à la fois philosophie et religion. Ses principes sont fixés par Lao Tzu, dont le nom francisé devient Lao Tzu, 570-490 avant Jésus-Christ. Le recueil d'aphorismes qu'il a laissé porte le titre de Tao Te Ching, soit le livre du Tao, voie, et de la vie humaine. Pour lui, l'homme doit s'identifier, par l'extase, au reste de l'univers et parvenir au Tao. Il peut le faire par des pratiques physiques. Le taoïsme est une morale individualiste qui enseigne le détachement de toute chose. Le légisme, la loi, rien que la loi, est un courant de pensée fondé par un groupe de légistes du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'accepter l'homme et le monde tels qu'ils sont et de se conduire en fonction de trois notions fondamentales. La loi, la position de force et le contrôle social. Le moïsme, du nom de son fondateur, Mozi, 479-381 avant Jésus-Christ, auteur du livre de Mozi, prône l'égalité, la paix et l'amour universel. Ce courant de pensée est largement mis de côté avec l'avènement du premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, vers 220 avant notre ère.
Les premières dynasties. Si après le règne de Yu le Grand, la Chine entre dans l'histoire, elle connaîtra encore des divisions avant son unification en un vaste empire, parfois lui aussi sujet à des éclatements. Plusieurs dynasties apparaissent au fil du temps. Le premier empereur. Entre 230 et 221 avant Jésus-Christ, le prince Zheng, souverain de Qin, conquiert les autres royaumes chinois et se proclame empereur sous le nom de Qin Shi Huangdi. Il gouverne de 221 à 210 avant Jésus-Christ. Et son nom signifie « premier auguste seigneur ». C'est son nom Qin qui donne celui du pays, la Chine. Inspiré par la pensée des légistes, il accomplit en seulement 11 ans de règne une œuvre monumentale, administrative. Il brise les princes féodaux, divise l'empire en préfectures aux ordres d'un fonctionnaire nommé, réglemente les mesures de longueur et de poids, législative, il unifie les lois et règlements, culturel, il impose un système d'écriture unique à tout l'empire grâce auquel, en dépit de prononciations trop différentes pour se comprendre à l'oral, tous les Chinois se comprennent encore sans problème à l'écrit. Militaire, pour défendre la Chine contre les attaques des nomades, il entreprend de faire construire la muraille de Chine.
Le saviez-vous? Les soldats de terre de l'armée de Qin. L'empereur Qin Shi Huangdi, ayant cherché en vain le filtre d'immortalité, meurt en 210 avant Jésus-Christ. Destiné à vivre aux côtés des dieux, il s'était fait construire un complexe funéraire gigantesque près de sa capitale, Xi'an, dans la province du Shanxi, au centre de la Chine. Au centre, un tumulus de 50 mètres de haut et de 6 kilomètres de périmètre recouvre un palais souterrain, dont le plafond représenterait le ciel et le sol la carte de l'Empire au fleuve de Mercure. Non encore fouillé, mais connu par le Shiji, ou chronique de la Chine, des origines aux environs de 100 avant Jésus-Christ, de l'historien Sima Qian, mort en 86 avant Jésus-Christ. Ce tumulus est entouré de fosses immenses qui contiennent une véritable armée de soldats en terre cuite, en ordre de bataille. 5 fosses ont été mises au jour. La plus grande mesurée est longue de 230 mètres, large de 62 mètres et profonde de 4,80 mètres. Elle couvre une superficie de 1,5 hectare. Elle contient environ 6000 guerriers, dont 1000 ont été dégagés, plus les chars et les chevaux. Chaque soldat debout mesure près de 2 mètres, ou 1,20 mètres pour les archers agenouillés. Dotés chacun d'un visage différent, ils sont d'une incroyable minutie, notamment dans le détail de leur armement.
La dynastie des Han. le successeur de Qin Shi Huangdi est le second et dernier empereur de la dynastie Qin, remplacé par celle des Han, 206 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ. On doit aux Han l'organisation de l'Empire chinois. Ils le dotent de frontières sûres, l'agrandissent par des conquêtes dont la Corée et surtout font du confucianisme l'idéologie de l'État. L'obéissance absolue à l'empereur et à ses représentants est une règle de gouvernement. À la chute de la dynastie, s'ouvre une période de troubles, de nouvelles divisions de la Chine en royaumes puis en deux dynasties, l'une régnant au nord, l'autre au sud. En 618, la brillante dynastie des Tang réunifie le pays à son profit. La dynastie des Tang. Les Tang réunifient la Chine à leur profit et règnent sur le pays de 618 à 907. Ils réorganisent l'administration des provinces en les confiant à des gouverneurs militaires, avec le risque de les voir se révolter contre le pouvoir central, ce qui se produit au milieu du 8e siècle.
N'oubliez pas, le mur long de 10 000 lis. Telle est l'appellation chinoise de la Grande Muraille. Le li, unité de mesure des distances, équivaut à environ 500 mètres, et 10 000 lis signifie ici nombre infini. Voulu par Qin Shi Huangdi, pour protéger la frontière nord de l'Empire des attaques des barbares, c'est-à-dire des populations non chinoises, la Grande Muraille mesure entre 8 et 18 mètres de hauteur, 6 mètres de largeur à son sommet, entièrement réalisée en terre battue, recouverte de parements de briques séchées. Des créneaux, du côté exposé à l'ennemi, permettent aux archers de les cribler de flèches. Jalonnée de 25 000 fortins et de 15 000 tours de guet, elle s'étend sur 4 000 kilomètres, de la mer jusqu'à l'ouest de Gansu, province du nord-ouest de la Chine. Qin Shi Huangdi aurait réquisitionné près d'un million d'ouvriers, contraints au travail pour réaliser l'ouvrage, plus tard restauré et allongé au cours du XIVe siècle. Il est à noter que si la Grande Muraille a permis de tenir en respect certaines tribus, elle n'a pas résisté à l'assaut de la Horde d'Or, l'armée mongole de Genghis Khan, qui parvient à la contourner victorieusement en 1215.
Dans le domaine religieux, le bouddhisme, religion importée d'Inde, se développe avec l'appui de la cour et notamment des impératrices, sauf pendant la période d'interdiction de toute religion étrangère en 845. Sous cette dynastie se poursuit l'acquisition d'une culture fondée sur les classiques confucéens. Mais c'est surtout l'art qui a rendu la dynastie Tang célèbre. Les œuvres des artistes Tang, soucieux de réalisme et en rupture avec le goût prononcé des prédécesseurs pour le fantastique, sont diffusées tout au long de la route de la soie. Les plus remarquables naissent du travail de la porcelaine et du grès vernissé, coloré de vert et de brun. Originaires du Nord, les Tang, au contact des nomades, ont appris à perfectionner la chasse, l'équitation, l'escrime, le tir à l'arc à cheval. Autant d'exercices qui viennent compléter la formation classique des lettrés. Les chevaux impériaux dont on fait des portraits officiels deviennent un thème à la mode dans les poteries à revêtement de glaçure ou sans glaçure de couleur verte et brune. Ces statuettes, d'environ 40 cm de haut sur 20 cm de long en moyenne, représentent les chevaux dans des postures variées, mais toujours avec le souci de traduire l'énergie dégagée par l'animal. On retrouve aussi très souvent des représentations de chameaux et des figures humaines, gracieuses dames de la cour, suivantes, réservées, hauts personnages graves et circonspects. Tous ces objets font partie des dépôts qui accompagnent le mort dans l'au-delà afin qu'ils puissent jouir encore de leur vue et de leur compagnie. Le noble défunt ne saurait se passer de ses animaux favoris ni de ses domestiques.
Le saviez-vous ? La route de la soie. C'est au IIe siècle avant Jésus-Christ qu'un empereur de la dynastie Han charge un envoyé de trouver une voie commerciale pour relier la Chine à l'Occident. C'est l'origine de la fameuse route de la soie. Il s'agissait en effet d'exporter ce produit précieux entre tous, dont le secret de fabrication sera jalousement conservée par les Chinois jusqu'à la fin du Moyen Âge. Longue de plus de 7000 kilomètres, la route de la soie traverse la Chine centrale, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, et débouche sur la Méditerranée orientale. Outre la soie, la route permit la circulation des idées, des religions et des systèmes philosophiques, mais introduisit aussi en Europe la poudre à canon et le papier. Plus que d'une route, il s'agit d'une piste parmi d'autres. Si le parcours est, par convention, appelé « route de la soie » en raison des grandes villes qui le jalonnent, il n'est cependant pas fixé entre elles.
La dynastie des Ming. Après 907, la Chine sombre dans une période de confusion, d'éclatement, au cours de laquelle des principautés rivales contrôlent chacune une partie du territoire. Les hordes mongoles envahissent le pays et imposent une dynastie dont la capitale sera Beijing, Pékin. Mais les Chinois supportent mal la domination étrangère. Même si les descendants de Genghis Khan, 1162-1227, ont rapidement adopté les coutumes et le mode de vie des empereurs de Chine. En 1368, une révolte paysanne chasse les Mongols et rétablit sur le trône une dynastie chinoise, les Ming, qui règnent de 1368 à 1644. Ils instaurent un nouveau mode de gouvernement. L'empereur, enfermé avec sa cour dans la cité interdite, est de plus en plus coupé des réalités économiques et sociales et laisse le pouvoir au groupe des eunuques. Chargés à l'origine de l'entretien du palais, ils deviennent des intermédiaires indispensables et corrompus pour quiconque veut approcher le pouvoir. Le retour à la pensée confucéenne imprègne la littérature et la philosophie de contenus traditionnels, l'idéal se limitant à reproduire sans se démarquer des classiques. Très révélatrice à cet égard est la monumentale encyclopédie publiée au début du XVe siècle sous le règne de Yongle. Riche de 11 000 volumes, elle fait le point des connaissances, mais sans apport nouveau. Pourtant, l'Empire du Milieu, nom officiel de la Chine impériale, s'ouvre à l'Occident, accueillant les Portugais à Canton en 1600, puis les Anglais qui fondent la Compagnie des Indes orientales. Les contacts sont limités à certains ports et les étrangers n'ont pas le droit de circuler en Chine intérieure. Sauf les pères jésuites arrivés dans les bagages des Portugais et dont certains sont accueillis à la cour comme Matteo Ricci, 1552-1610. Il y est apprécié pour son savoir mathématique et astronomique, non pour la religion chrétienne de peu de poids à l'époque. Auteur du premier dictionnaire bilingue, il entreprend la traduction des classiques chinois.
Le saviez-vous? La cité violette. Tel est le véritable nom de la cité interdite, en raison de la muraille pourpre de 10 mètres de haut qui enclôt ses 72 hectares. Résidence du Fils du Ciel, l'Empereur, elle se trouve symboliquement au centre de la Terre. Elle mesure 960 mètres du nord au sud et 750 mètres d'est en ouest. Les couleurs employées ont une valeur protectrice. Le rouge des colonnes est en Extrême-Orient la couleur du bonheur. C'est ainsi que les cartes de vœux du Nouvel An sont toujours envoyées dans des enveloppes rouges, couleur également des robes et voiles de mariée. Le jaune, couleur réservée à la famille impériale, est présent sur les toits recouverts de tuiles vernissées jaunes. Pendant l'époque impériale, aucun édifice ne devait dépasser en hauteur ceux de la cité violette. Aujourd'hui, un gigantesque portrait de Mao Zedong en surmonte l'entrée principale. La porte Tiananmen, ou porte de la paix céleste. Peut-être est-ce là celui du dernier véritable empereur de Chine? Qui sait?
Les Qing, une dynastie mandchoue. Amorcé au début du XVIIe siècle, l'affaiblissement des Ming, en lutte à la fois contre les Japonais en Corée, les sociétés secrètes des nobles en révolte larvée à la cour et les Mandchous, groupe ethnique du Nord-Est qui proclament leur indépendance, est accéléré par la terrible famine de 1640. Les généraux se déchirent pour s'emparer du trône et l'un d'eux fait appel aux guerriers Mandchous réputés pour leur efficacité. Après le renversement du dernier empereur Ming, il est lui-même chassé par les Mandchous, qui fondent leur propre dynastie étrangère, la dynastie Qing, c'est-à-dire pure. Elle va durer de 1644 à 1911. Kangxi, 1662-1722, redresse le pays. Il met fin aux révoltes paysannes, sécurise les frontières, y installe des armées permanentes et rétablit le système des examens en éradiquant la corruption. La paix civile favorise l'essor d'une bourgeoisie urbaine qui lorgne toujours du côté des lettrés fonctionnaires pour réaliser son ascension sociale. Il fait de sa cour le centre des arts et des lettres, y accueille des missionnaires jésuites, entretient une correspondance avec son cousin, le roi Louis XIV. Incarnant l'idéal du prince guerrier, Qianlong, 1735-1796, réorganise l'armée, étend les frontières de l'Empire. C'est sous son règne que se généralise la triple récolte de riz qui permet de nourrir une population de plus en plus nombreuse, évaluée à environ 400 millions. La Chine moderne. Tout au long du XIXe siècle, la Chine décline lentement. La démographie explose, mais les pratiques culturelles ne suffisent plus à nourrir la population, et les révoltes paysannes reprennent. Les diables étrangers imposent l'importation de l'opium, battent les troupes impériales au cours des deux guerres de l'opium, en 1842 et 1858. Des empereurs enfants ou incapables sont dominés par la volonté de fer de l'impératrice douairière Cixi, qui meurt en 1908. Conservatrice, elle fige le pays dans l'immobilisme. Cette situation s'accompagne de cuisantes défaites militaires contre la France en 1860, le Japon en 1895, la Russie en 1898. Cixi meurt probablement vers 1908. En 1911, le dernier empereur de Chine, Puyi, un enfant de 4 ans, abdique. La République est proclamée dominée par Sun Yat-sen en 1912, puis par le général Yuan Shikai, qui se proclame empereur pendant quelques temps, avant de mourir en 1916. Entre 1916 et 1949, le pays est livré aux seigneurs de la guerre, des généraux locaux, chacun terrorisant le territoire qu'il contrôle, puis à la lutte entre communistes et nationalistes. L'épisode le plus marquant en est la longue marche, repli des communistes sur les montagnes du Nord-Est en 1934. Entre 1931 et 1945, une partie de la Chine, notamment la Mandchourie au Nord-Est, est occupée par le Japon. En octobre 1949, les communistes proclament la naissance de la République populaire de Chine avec à sa tête Mao Zedong, 1893-1976. Les nationalistes se réfugient à Taïwan et y créent la République de Chine.
N'oubliez pas, le rêve dans le pavillon rouge. Publié dans la première moitié du XVIIIe siècle, c'est le plus grand roman chinois. De l'aveu de son propre auteur, Cao Chuxin, chaque mot m'a coûté une goutte de sang, et l'œuvre comprend plus de 3000 pages. C'est dire que le rêve dans le pavillon rouge est un monument, à tout point de vue, de la littérature chinoise. Cao Chuxin tient de Balzac, avec ses 500 personnages, et de Proust, dans la finesse de ses analyses psychologiques. L'intrigue se déroule autour des amours contrariés de l'aventurier Jia Baoyue, et de sa belle cousine, Lin Daiyu. Les parents, comme il se doit, s'opposent au mariage, et après 1000 tourments, les amants ne pourront se rejoindre. Cette tragédie digne de l'antique est l'occasion pour Cao Chuxin de dépeindre toutes les strates de la société sous les Qing, depuis les mandarins de la cour impériale jusqu'aux mendiants du ruisseau. Encre d'azur, bouffée de parfum ou balayeur de pétales, vous accompagne pour un voyage au cœur des complots et des intrigues, dans la Chine impériale du XVIIIe siècle. Flamboyante et hypocrite, feutrée, fascinante et dangereuse.